Donc, nous nous sommes laissés la semaine passée dans l'étude du livre des Actes. Nous allons chapitre par chapitre enchaîner avec le message de la parole et nous allons courber nos têtes. Oui, merci Seigneur Dieu pour ton Saint-Esprit que tu as envoyé, comme ton Fils Jésus l'avait promis, pour nous consoler, mais aussi pour nous instruire. Merci pour l'inspiration qu'il a donnée aux auteurs des Écritures pour produire ta parole, la parole de Dieu qui est encore... la parole que tu nous adresses aujourd'hui, en 2021, par ce Saint-Esprit, comme nous venons de le chanter, viens nous façonner, nous former selon ta volonté. Et utilise ta parole ce matin pour cela, pour parler à nos cœurs. Donc, rends-nous humbles à l'écoute de ta parole, obéissants, enseignables. Et aussi, accorde-nous la sagesse dont nous avons besoin pour comprendre ta volonté et la mettre en application. Au nom de Jésus, amen. Et nous sommes rendus dans le troisième voyage missionnaire de Paul. En fait, il est sur son chemin de retour. Il va prendre le bateau. Et il fait route avec plusieurs de ses collègues, ses amis, avec qui il a travaillé, entre autres avec Luc, celui qui a écrit le livre des Actes. Donc, Luc est témoin de tout ce qu'il nous rapporte dans cette section de son livre. Et Paul est en route avec ses compagnons vers Jérusalem. Puis, il aurait voulu se rendre à Jérusalem pour la fête de Pâques, qui est comme la fête principale en ce temps-là à Jérusalem, pour pouvoir voir ses frères là-bas, puis fortifier l'Église, apporter des nouvelles. Mais il devait prendre pour cela le bateau à Corinthe, parce qu'il avait séjourné quelque temps à Corinthe. Il voulait traverser la mer Méditerranée pour se rendre directement à Jérusalem. Mais à cause d'un complot des Juifs au port, qui voulait l'assassiner finalement, donc il n'a pas pu prendre le bateau, il a plutôt pris ses jambes, ses pieds, il a traversé la Macédoine. Là, il vient de terminer un arrêt de 7 jours à Troas, donc après avoir traversé la Macédoine, il a traversé l'espace d'eau qui est là pour se rendre au nord de l'Asie mineure, et il a passé 7 jours à Troas où on a pu voir le rapport d'un culte qu'ils ont célébré ensemble, et ils ont même partagé la table du Seigneur. Donc, le passage d'aujourd'hui commence le lendemain, alors que Paul repart de Troas pour se rendre directement à Jérusalem. Donc, lisons ensemble Acte 20, à partir du verset 13. Acte des apôtres dans le Nouveau Testament, chapitre 20, verset 13. Nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Acte 20, 13. Pour nous, donc c'est Luc qui parle, nous avons pris les devants sur le navire et fait voile pour Assos, où nous devions reprendre Paul. Ainsi en avait-il décidé parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoints à Assos, nous l'avons pris à bord pour aller à Mytilène. De là, continuant par mer, nous sommes arrivés le lendemain devant Chios, et le jour suivant, nous touchions à Samos. Et le jour d'après, nous arrivions à Milet. Et Paul avait en effet résolu de passer au large d'Éphèse pour ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour être à Jérusalem, si cela lui était possible, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'Église. Et lorsqu'ils furent arrivés près de lui, il leur dit, « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous, depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs, sans rien dissimuler. Je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile, en proclamant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi à notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, sans savoir ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste et me dit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour faire paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Cela dit, il se mit à genoux pour prier avec eux tous. Et tous, avec de grandes lamentations, se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ils étaient surtout affligés parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus revoir son visage. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Wow, c'est tout un passage, hein? Précieux pour nous, précieux pour l'Église. Sûrement le passage le plus émotif concernant Paul, où on voit son attachement, son amour pour l'Église. Donc, Paul, on voit qu'il est pressé d'aller à Jérusalem pour arriver, si possible, à la Pentecôte. Donc, il a dû changer ses plans. Il n'a pas pu y aller à Pâques, mais il espère pouvoir y être à la Pentecôte. C'est 50 jours après Pâques. Donc, c'est réaliste, mais pour ça, il ne doit pas perdre trop de temps en route. C'est pour ça qu'il a décidé de longer le rivage par bateau et ne pas passer par Éphèse, qui était à plusieurs kilomètres de la rive. En fait, c'est dur à estimer parce que le rivage a beaucoup changé depuis 2000 ans à cause des accumulations de sable. On pense qu'à l'époque, c'était à 30 kilomètres de Milet. Certains disent 100 kilomètres, donc c'est difficile à estimer. Mais Paul a fait exprès pour passer plus loin d'Éphèse parce qu'il venait de passer peu de temps avant, 3 années entières à Éphèse où il a évangélisé, il a finalement fondé l'Église là-bas. Et par son ministère, les Églises ont été implantées dans toutes les villes principales de l'Asie. Donc, il y a un attachement très fort qui s'est créé entre lui et l'Église. Et c'était impossible pour lui de faire un petit saut de quelques minutes pour saluer les gens. Il leur a été retenu trop longtemps. Donc, il a décidé de contourner. Mais, arrivé au port de Milet, qui était au sud, en fait, c'est le point le plus au sud de l'Asie, il a fait venir les anciens d'Éphèse. Donc, probablement qu'ils sont arrivés au port 3 jours après, le 3e jour. Ils ont pu s'entretenir avec Paul. Puis dans le fond, Paul, ce qu'il voulait faire avec eux, c'est leur transmettre ses dernières volontés, parce qu'il sait qu'il ne les reverra plus. Un peu comme son testament spirituel qu'il leur laisse. Si on peut résumer tout son discours, c'est « J'ai terminé ma tâche à Éphèse, ce que le Seigneur Jésus m'a confié, ce que le Saint-Esprit m'a poussé à faire chez vous, je l'ai terminé. Maintenant, je vous passe le bâton. C'est à vous de poursuivre. Et vous m'avez vu agir, vous avez vu ce que j'ai dit, mais imitez-moi, faites comme moi. Soyez mes imitateurs. » Donc, il va rappeler finalement dans son discours ce qu'il a fait pour s'assurer qu'il prenne la relève et qu'il poursuive son travail. Et une des choses qu'il leur dit, une des choses qui est fondamentale, et c'est la première chose que nous allons étudier ce matin, c'est l'Église sur laquelle les anciens ont la charge, l'Église d'Éphèse, appartient en réalité à Dieu. Elle n'appartient pas aux anciens. Elle n'appartient même pas finalement aux membres de l'Église, elle appartient à Dieu. C'est vraiment la propriété de Dieu. Et pour illustrer cela, comme souvent dans la Bible, le peuple de Dieu, ici, l'Église, est comparé à un troupeau de moutons, un troupeau de brebis. Un troupeau de brebis n'est pas indépendant. Et normalement, il n'appartient même pas aux bergers qui surveillent. Les brebis, ils appartiennent au propriétaire. Le propriétaire du troupeau qui envoie ses employés, ses bergers, garder le troupeau. C'est pour ça qu'au verset 28, Paul dit qu'ils ont, les évêques ont été établis sur l'Église de Dieu. C'est vraiment le troupeau de Dieu. Et les pasteurs, les bergers, ont la charge, la tâche de garder ce troupeau-là. Le mot pasteur est vraiment un synonyme de berger. Donc, c'est de faire paître, c'est ça un pasteur, s'occuper du troupeau, des brebis. D'ailleurs, ce passage-là est précieux pour qu'on comprenne différents titres qui sont attribués au même groupe d'hommes. Donc, on comprend dans le passage que les pasteurs, ceux qui sont à charge de faire paître le troupeau de Dieu, sont appelés aussi les anciens, et ce sont aussi les évêques. Donc, en fait, les pasteurs, les évêques, les anciens, ce sont un seul et même groupe dans le Nouveau Testament. Peu importe le nom qui est utilisé, le titre qui est utilisé, il s'agit toujours du même groupe qu'on peut appeler le conseil d'anciens, le comité pastoral, ou le conseil d'évêques de l'Église. Pourquoi utiliser un mot plutôt qu'un autre? Bien, on voit que pasteur, ça fait surtout référence à la tâche de veiller sur le troupeau, d'en prendre soin, de le protéger, de le garder, de le nourrir. Le terme ancien, puisque normalement ceux qui étaient nommés anciens, c'est ceux qui avaient de l'expérience, qu'ils étaient reconnus pour avoir fait leurs preuves avec de l'âge. Pas nécessairement, bien, à l'époque c'était forcément un âge physique, là, mais par la suite, il s'agit surtout d'un âge d'une maturité spirituelle, donc qui n'est pas un nouveau converti, il a de l'expérience, donc il peut apporter conseil, direction. Donc, le mot ancien fait surtout appel à l'un des rôles du comité pastoral, qui est de donner une direction à l'Église, de conseiller. Le mot évêque fait plutôt référence à l'action de surveiller, donc s'assurer là, que l'organisation fonctionne, qu'il n'y a pas de dérapage, qu'il n'y a pas une brebis qui est en train de s'écarter là, puis de foncer sur un ravin, ou qu'il n'y a pas des loups qui sont en train de rentrer. Mais donc, c'est d'apporter une surveillance qui est un peu plus globale, si on peut dire. Ça, c'est le terme évêque. Mais il n'y a jamais dans le Nouveau Testament de rang hiérarchique ou de degré d'autorité à inter-Église. Vraiment, chaque Église est montrée comme étant autonome, indépendante, et le Saint-Esprit établit lui-même sur chaque Église locale les anciens pour qu'ils en aient la charge. Donc, c'est le Saint-Esprit qui appelle les pasteurs au service du troupeau de Dieu. Et l'Église, on comprend dans le passage, Paul insiste beaucoup, là, puis Luc prend la peine de mettre en long son discours, combien l'Église est précieuse pour Dieu. C'est ce qu'il veut laisser vraiment une marque très forte, là, une empreinte là, dans la pensée de ces anciens-là, là, que l'Église est très précieuse pour Dieu, donc ils doivent la considérer comme précieuse et en prendre soin. Donc, toute négligence doit être condamnée. Là. Vraiment, ils doivent considérer l'Église comme la prunelle des yeux de Dieu. Et la preuve qu'elle est précieuse pour Dieu, c'est qu'il a donné son propre sang pour la racheter. Il l'a acquise par son propre sang. Wow, quelle déclaration! C'est vraiment un passage très important pour notre compréhension de l'Évangile. Donc, par le sacrifice de Jésus à la croix, lorsque Jésus est mort, que son sang s'est vidé, que finalement, c'est les dernières gouttes de son sang ont fait en sorte que son cœur arrête, son cerveau a cessé de fonctionner. Il a rendu l'âme, mais son sacrifice servait pour Dieu à sauver vraiment un peuple précis, son Église, qu'il a racheté. Les élus, tous ceux qu'il a choisis à travers toutes les nations, pour lui appartenir. Donc Jésus est mort pour eux, pour vous et moi, si vous appartenez au peuple de Dieu. Encore aujourd'hui, en 2021, ceux qui sont sauvés, qui s'ajoutent à l'Église, mais Dieu les connaissait d'avance, et Jésus est mort pour eux, précisément, pour les racheter. Et ceux qui sont rachetés par lui, par le sacrifice de Jésus, deviennent saints. Ils sont, au verset 32, tous ceux qui sont sanctifiés, tous ceux qui sont devenus saints. Donc, le sang de Jésus qui a coulé, la mort de Jésus pour racheter les hommes et des femmes pour appartenir dans le peuple de Dieu, a fait d'eux des saints parce que leurs péchés ont été pardonnés. C'est pour ça que Jésus devait mourir. Pour que les péchés de tout le peuple de Dieu soient pardonnés, même effacés, même jetés au fond de la mer pour que Dieu ne les rappelle plus à sa mémoire, même au jour du jugement. Sur la liste, là, sur notre dossier, ça sera écrit « Payé ». Plus de condamnation pour tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus. Il y a une précision très importante aussi ici. Il est dit que c'est Dieu qui a acquis l'Église par son propre sang. C'est une déclaration forte, mais peut-être subtile, mais que Jésus est Dieu, puisque c'est le sang de Dieu qui a coulé. Donc, Jésus est Dieu. Il n'y a pas de reproche à faire à Dieu le Père qu'il aurait, soi-disant, manqué d'amour envers son Fils bien-aimé parce qu'il l'a offert en sacrifice. Vous avez sûrement déjà entendu cet argument-là que Dieu le Père, qui est supposément Dieu d'amour, Dieu est amour et pourtant il a sacrifié son propre Fils. Ce n'est pas une preuve de méchanceté. Non, parce qu'ici, il y a une autre vérité aussi que le Nouveau Testament nous apprend. C'est que c'est Dieu lui-même qui s'est offert en sacrifice. C'est vraiment le Créateur qui est venu sur terre donner sa vie pour ses créatures. C'est le plus grand amour. Et c'est exprimé de différentes manières. Jésus aussi exprime, Dieu le Fils, qu'il a donné volontairement sa vie pour ses amis. Donc, le Père a offert son Fils en sacrifice, mais le Père et le Fils sont un seul et même Dieu. Mais tout cela, c'est pour rappeler quel prix a été payé. Le Créateur lui-même a payé le plus grand prix qui soit pour racheter cette Église-là, la sanctifier et la garder pour l'héritage qui lui est promis. Donc, tout cela, là, c'est rappelé par Paul ici pour que les anciens comprennent quel mandat solennel ils ont reçu, important. Les pasteurs, s'ils se rappellent ça, le prix qui a été payé pour l'Église, ça sera une motivation pour accomplir leur devoir. D'ailleurs, comme deuxième point, on va regarder trois devoirs. On peut résumer finalement tout ce que Paul demande aux anciens d'accomplir, tout ce qui les exhorte à trois devoirs des pasteurs, qui concernent tous les pasteurs. Et il se donne un exemple lui-même. Ce n'est pas par orgueil, c'est parce qu'il a été le modèle. Il a été le premier appelé dans cette région-là. Et son dévouement, sa manière de servir l'Église est devenu un modèle pour tous les pasteurs de tous les temps, encore pour les pasteurs aujourd'hui. Mais les pasteurs eux-mêmes, comme Pierre nous le rapporte dans son épître, sont des modèles pour toute l'Église. Donc finalement, les principes que Paul enseigne aux pasteurs doivent aussi s'appliquer dans la vie de tous les chrétiens, de manière différente, bien sûr, parce qu'on n'a pas tous le même rôle, mais tous les principes sont les mêmes. Donc je vous invite à regarder, à observer comment appliquer ces choses-là dans votre propre vie, dans votre situation, dans votre famille, dans votre contexte. Le premier devoir qu'on peut voir, c'est au niveau de l'attitude. On peut dire que ce n'est pas une chose à faire, c'est plutôt un comportement, une attitude, mais Paul insiste tellement là-dessus que c'est un point en soi. Là. C'est l'attitude du dévouement, le sacrifice de soi. Vraiment, ça devrait être la marque, la caractéristique, la qualité première d'un serviteur de Dieu, d'un ouvrier. Que l'ouvrier voit sa tâche comme vraiment une vocation à laquelle il s'engage. Et si Dieu le veut, pour la vie. Et Paul en a fait preuve, il rappelle, depuis le premier jour qu'il s'est présenté en Asie, depuis le premier jour, les premiers chrétiens qui l'ont connu quand il est arrivé ont vu son zèle pour l'évangélisation, puis il dit, vous en êtes témoins, j'ai gardé ce même zèle-là pendant les 3 années que j'ai passées chez vous. Donc, un dévouement continuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pris de vacances, c'est sûrement qu'il a pris des congés à gauche et à droite là, pour se reposer. Mais il n'a certainement pas pris une année sabbatique. Je ne suis pas très fan de ces années sabbatiques-là. Mais il était dévoué. Et tous les pasteurs ne sont pas nécessairement engagés à temps plein dans l'Église. Certains sont engagés à temps partiel, d'autres ne sont pas rémunérés non plus. Ils ont leur emploi séculier. Mais avec le temps qui leur est imparti par l'Église, ils doivent servir l'Église avec zèle, avec le plus que c'est qu'ils ont la possibilité, le plus de ressources, le temps qu'ils ont à leur disposition. Donc, pour cela, c'est sous-entendu, on ne peut pas servir, on n'a seulement que 24 heures dans une journée. Là. Si on veut servir le Seigneur, si on veut servir l'Église avec zèle, on n'a pas le choix que de mettre des projets personnels de côté. Certains projets de carrière, des projets de construction d'un chalet, ou peu importe, certains loisirs ne pourront jamais être pratiqués, même peut-être par un pasteur. On doit faire une croix sur certaines choses qui nous auraient intéressés si on avait eu une simple vie séculière, mais quand on s'engage à servir l'Église, on renonce à beaucoup de choses. On devrait, en tout cas. Et Paul a renoncé à beaucoup de choses. Il en fait la liste dans Corinthiens. Et ce dévouement-là implique de servir Dieu avec humilité. c'est déjà une preuve d'humilité que de renoncer à des choses qui, pour, aux yeux de la société, sont extrêmement précieuses. La société va évaluer la réussite de la vie de quelqu'un sur des critères, là, comme l'accumulation de biens, la plus grosse maison qu'on peut atteindre avant sa retraite, le plus gros montant qu'on peut avoir à la retraite, ou le nombre de voyages que l'on peut faire. Ou... peu importe, les gens de la société n'ont pas tous les mêmes manières de calculer la réussite d'une vie. Mais en tant que pasteur, on renonce à tout cela, donc on... ça peut être humiliant aux yeux de la société. Mais justement, ce qui est recommandé, c'est de servir le Seigneur en toute humilité. Et à l'époque de Paul, ce n'était pas différent, c'était peut-être même pire. Le principe, l'attitude, avoir une attitude humble, c'était vraiment vu comme étant dégradant. C'était seulement les esclaves qui devaient faire preuve d'humilité. C'était pas une bonne chose de dire que quelqu'un est humble. C'était pas une qualité, en tout cas, à l'époque. Mais Paul enseigne au contraire qu'il faut faire preuve d'humilité. Même, il va plus loin pour rappeler que tous les croyants, nous sommes des esclaves de Jésus. Donc, justement, si ce sont les esclaves qui doivent faire preuve d'humilité, bien, les chrétiens devraient être humbles. Le verset 19, lorsqu'il dit « J'ai servi le Seigneur », le verbe « servir », ça fait vraiment référence à « j'ai été un esclave du Seigneur ». Et il invite les anciens à se considérer eux-mêmes comme des esclaves du Seigneur. Un esclave, ce n'est pas lui qui décide ce qu'il va faire. Il ne cherche pas non plus son honneur, il cherche l'honneur de son maître qu'il sert. Et celui qui sert humblement ne va pas se glorifier et il va pouvoir persévérer, même quand ça va mal. Si le but du service est d'obtenir une gloire personnelle, mais quand ça va mal et que finalement le service n'est plus glorieux, bien on va abandonner. Pourquoi continuer quelque chose qui ne rapporte pas? Mais si le but n'est pas de se glorifier, qu'on sert humblement, ça rend possible le service fidèle et persévérant. Et Paul témoigne qu'il a même plusieurs fois versé des larmes à cause de son service. Probablement pas à cause de la difficulté qu'il vivait lui-même, quoi que c'est possible. Il dit qu'il a été victime de plusieurs complots des Juifs qui ne sont pas rapportés dans le récit qu'on a lu dans le chapitre précédent, mais plusieurs fois les Juifs ont voulu atteindre sa vie ou l'ont faussement accusé, où l'on voulu le traîner en cour. On sait que les fabricants aussi d'idoles l'ont traîné, voulaient poursuivre toute l'Église, là, parce qu'il subissait des pertes financières à cause des chrétiens. Mais ça, c'est un seul exemple, mais Paul a été victime de beaucoup d'attaques, de fausses accusations, où sa réputation était constamment attaquée. Mais je suppose aussi que les larmes dont il parle, c'est de voir certains frères ou sœurs qui s'étaient convertis se refroidir pour le Seigneur, abandonner le Seigneur, ou retourner dans des pratiques païennes, ou de voir des faux enseignements pénétrer dans l'Église. C'est des choses qui l'attristent. C'est réjouissant de voir un membre de l'Église qui grandit spirituellement, mais quelqu'un qui retombe constamment, qui chute, qui délaisse le Seigneur, c'est dur pour des pasteurs de voir cela. Puis Paul l'a vécu. Il dit que souvent, il était dans les larmes. Il a subi les attaques, les fausses accusations, la critique, mais il a persévéré avec zèle et même avec joie. Wow! Mais quand on sert le Seigneur, ça aide à passer à travers les épreuves aussi grandes qu'elles peuvent être. Et être dévoué à la tâche implique aussi de ne pas le faire pour l'argent. Donc, on ne le fait pas pour sa gloire personnelle, on ne le fait pas non plus pour sa richesse personnelle. On n'est pas supposé, en tout cas. Pour s'assurer même que personne ne se trompe sur son intention, Paul avait jugé bon de ne pas recevoir de salaire de la part des Éphésiens. Donc, il leur rappelle qu'il y a Il n'a pas reçu d'argent de la part de l'Église d'Éphèse pendant les 3 années qu'il était là. Pour subvenir à ses besoins, il a travaillé à fabriquer des tentes. Donc, il avait comme 2 emplois, si on peut dire. Là, il travaillait de ses mains, il a pourvu à ses besoins. Puis en plus, il a servi l'Église à tous les jours, il enseignait, il prêchait, il évangélisait, dans les places publiques et même dans les maisons. Son horaire devait être très chargé. Ça ne veut pas dire que les pasteurs ne devraient pas être rémunérés par l'Église. C'est évident que oui. D'ailleurs, Paul lui-même va le dire à Timothée dans 1 Timothée 5, versets 17 et 18. Il dit que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur. Puis là, il poursuit pour dire ce qu'il entend par là. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras pas le bœuf qui foule le grain. » Bon, si un bœuf, tu l'engages pour travailler, là, tu ne mettras pas une muselière pour éviter qu'il mange. Il peut manger, bien sûr. Et l'ouvrier mérite son salaire. C'est Jésus qui a dit ça dans l'Évangile de Luc. Donc, Paul dit ça à Timothée pour dire que c'est correct que parmi les anciens, certains soient rémunérés pour le travail, principalement ceux qui peinent à l'enseignement et à la prédication. Mais celui qui reçoit un salaire ne doit pas en profiter pour tenter de s'enrichir, encore moins au détriment de l'Assemblée, ce qui est vraiment honteux. Le pastorat n'est pas une opportunité de carrière. Ce n'est pas par ça qu'on vise à gagner bien sa vie, là. C'est une vocation. C'est censé être une vocation. Donc, c'est vraiment honteux quand on constate que des pasteurs s'enrichissent, qu'ils promettent des choses aux assemblées, entre autres par l'Évangile de prospérité, que des gens s'endettent pour donner à l'Église pour qu'eux puissent rouler en limousine avec des jets privés. Je suis sûr que Paul s'arracherait les cheveux sur la tête. La situation de Paul aussi, ce qu'il a vécu lui-même, fournit une autre preuve de son dévouement. Là, on ne peut pas douter qu'il est vraiment dévoué pour le service de l'Évangile, c'est qu'il risque sa propre vie. Il sait que s'il s'en va à Jérusalem, il risque sa vie. Mais il dit, je suis poussé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a convaincu d'aller à Jérusalem, il faut que j'y aille pour la Pentecôte. Mais, il dit, je sais aussi, parce qu'à plusieurs reprises, de ville en ville, quand j'avance, on peut être à Troas et aux autres villes qui ont été mentionnées ici, le Saint-Esprit lui fait savoir, peut-être par des personnes qui ont eu un songe, qui ont une révélation, ou même directement à lui, que ce qui l'attend à Jérusalem, c'est des liens et des tribulations. On sait d'ailleurs, si vous avez déjà lu l'histoire, qu'il va être emprisonné. Paul ne le sait pas encore, mais il doit s'en douter là, que ça inclut la prison, l'emprisonnement, le procès, et qu'il risque probablement sa vie. En tout cas, il ne sait pas s'il va mourir à Jérusalem, mais il sait qu'il ne reverra plus jamais les Éphésiens. Il dit, vous ne verrez plus mon visage. Ce qui a touché les anciens d'Éphèse, c'est pour ça qu'ils se jettent à son cou pour pleurer avec lui. Ils sont émus de cela, le sacrifice de Paul. Mais Paul dit, ne vous en faites pas, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse. Ce n'est pas ça qui est précieux, là. C'est l'Église qui est précieuse. En fait, Paul n'est pas en train de dire que nos vies individuelles ne valent rien, mais plutôt que la cause que nous servons vaut infiniment plus que nos vies. La cause que Paul sert vaut beaucoup plus que sa propre vie, il en est convaincu. Donc, il est prêt à mourir, lui, s'il le faut, pour la cause de l'Évangile. Il a été recruté par Jésus lui-même. On en a le récit dans Actes. Jésus l'a recruté, lui est apparu pour lui dire, « Paul, tu vas être mon serviteur là, dans les nations. » Et lui a confié le ministère d'annoncer l'Évangile à tous les peuples. Et l'intention de Paul, qui avait vraiment été saisie par le Seigneur, là, c'est d'accomplir son mandat. C'est la priorité numéro un. Il n'y a rien qui va le faire dévier de cela. Même la prison ne le fera pas dévier. Plusieurs lettres que Paul a écrites, il les a écrites en prison. Il a continué même son ministère du fond d'une cellule. Et Paul compare son intention de poursuivre jusqu'à la fin comme un... Il compare cela à un coureur de marathon qui s'est entraîné, là, puis ça fait des heures qu'il court. Là. Le coureur de marathon, il veut terminer la course. Sinon, tout est vain. Son entraînement est vain, sa course est vaine. Il faut qu'il termine. C'est ça son but. Là. Donc, il veut achever la tâche que le Saint-Esprit le conduit à accomplir. Tout ce que les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'il les accomplisse. Il veut les accomplir. Et la cause qu'il sert, il la résume en disant que c'est finalement le salut des âmes. Parce que ce qu'il fait, c'est qu'il rend témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Wow, c'est vraiment ça l'Évangile. C'est une définition de l'Évangile. La bonne nouvelle que Dieu nous fait grâce, Dieu nous pardonne. On devrait finalement être sous la colère de Dieu, mériter son jugement, passer l'éternité en enfer. Mais la bonne nouvelle, ce que Paul rend témoignage à tous, c'est que c'est possible d'obtenir le pardon de Dieu. Mais pour ça, les gens doivent savoir, avant qu'ils sont sous la colère de Dieu, ils doivent prendre conscience de leur besoin d'être sauvés. Et ensuite, comment être sauvés? Comment obtenir cette grâce-là? Parce qu'il y a un seul moyen. On pourrait inventer plein de façon qu'on pense là, pour obtenir la grâce de Dieu, mais ils sont tous voué à l'échec. Il y a un seul moyen pour l'obtenir, et c'est la foi en Jésus-Christ. Quand je lisais l'un des commentaires sur ce passage-là, là, pour voir, avoir des informations, l'un des commentaires rapportait l'histoire d'un homme qui avait posé sa candidature pour être aumônier dans l'armée. Donc, cet homme-là va passer l'entrevue, et les soldats qui passent l'entrevue, il y avait des officiers, puis il pose plusieurs questions, puis ils en viennent qu'à lui poser la question, « Est-ce que vous croyez que l'enfer existe? » Non, je ne pense pas que l'enfer existe. Alors, finalement, ils ont rejeté sa candidature. Ils lui ont dit, « Si vraiment l'enfer n'existe pas, comme vous le dites, ben, on n'a pas besoin d'aumônier. Mais si l'enfer existe et que vous n'y croyez pas, ça veut dire que vous êtes perdu, monsieur, puis vous allez nous perdre. Donc, dans tous les cas, vous ne faites pas l'affaire. » Bien sûr que Paul croyait en l'enfer. C'est un des thèmes abordés dans la Bible et même dans le Nouveau Testament très souvent. Et Jésus nous a avertis très souvent du jugement de Dieu qui s'en vient. Et Paul dit qu'il a enseigné tout le conseil de Dieu. Paul avait une foi totale dans la parole de Dieu. Et ce qu'on attend des pasteurs, c'est cette même foi-là dans la parole de Dieu. Ce qui nous amène au deuxième devoir des pasteurs. Donc le premier, c'est vraiment de se dévouer, que leur vie en soit vraiment marquée par leur service pour l'Église, leur zèle. Le deuxième, c'est vraiment, dans ce cas-ci, une tâche, c'est d'enseigner la parole de Dieu. C'est une des tâches principales des anciens. D'ailleurs, lorsqu'on compare les listes de qualifications dans le Nouveau Testament pour être un diacre et pour être un ancien, c'est très similaire. Même lorsqu'on regarde les qualités d'une veuve pour être sur la liste officielle des veuves, beaucoup de points se rejoignent, les diaconesses aussi. Mais dans le cas des anciens, il y a une qualification additionnelle qui est mentionnée, c'est d'être apte à l'enseignement, de pouvoir enseigner, de pouvoir comprendre les Écritures et transmettre fidèlement ce que Dieu a voulu dire à l'Assemblée. C'est primordial. Et Paul invite les pasteurs d'Éphèse à suivre son exemple. Il dit, « Moi, j'ai enseigné toute la parole de Dieu, publiquement, dans les maisons, donc ça veut dire en toute occasion, dans différentes formes, sans rien dissimuler. » Donc, il n'a pas dit, « Je ne leur parlerai pas de l'enfer parce que c'est trop négatif. » Ou « Je ne leur parlerai pas qu'il faut rester fidèle à leur femme jusqu'à la fin. » Parce qu'il y a bien trop de divorces, là. Ils vont dire que je suis fou. Il a prêché vraiment la volonté de Dieu, toute la révélation de Dieu, tout ce qui était utile pour leur salut, pour savoir comment obtenir la vie éternelle, et tout ce qui était utile pour la vie chrétienne. Tout le dessein de Dieu, donc tout le plan de Dieu pour nos vies, jusqu'à la fin, lorsque Jésus reviendra pour instaurer enfin son royaume éternel. Puis il l'a fait, Paul, sans discrimination à tous, aux Juifs comme aux Grecs, aux hommes, aux femmes, aux maîtres, aux esclaves, à toute la population, en insistant toujours sur l'essentiel, c'est vraiment le besoin d'être sauvé de la colère de Dieu. Donc, on peut annoncer beaucoup de choses par rapport à la révélation de Dieu, mais tout doit revenir finalement à l'essentiel qui est Jésus, Jésus qui est venu sur terre mourir pour nous. Et il résume en disant que tous doivent, lorsqu'il prêchait aux Juifs et aux Grecs, il disait à tous qu'ils doivent se repentir envers Dieu, c'est-à-dire se convertir à lui en renonçant à leur vie passée, donc demander pardon, avouer qu'on a vécu une vie de péché, se convertir à Dieu, lui demander son pardon et comprendre que si Dieu nous accorde son pardon, c'est parce que son Fils est mort à la croix. Donc, faire de Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, puisque Dieu l'a établi chef de l'Église. Donc, il y a comme deux choses qui sont mentionnées là, pour être sauvé. C'est de se repentir, de reconnaître qu'on est pécheur, se convertir à Dieu et avoir la foi en Jésus. Si on ne croit pas en Jésus, si on ne croit pas aux moyens que Dieu a utilisés pour nous sauver, on n'aura pas le pardon de Dieu, même si on le supplie toute notre vie. Dieu ne nous accordera pas le pardon. Il y a un seul moyen par lequel Dieu va nous accorder le pardon, c'est si on met notre foi dans le sacrifice de Jésus. Si on renonce à vouloir gagner ou mériter une place au ciel par nos propres moyens. Si on renonce à cela et que humblement on dit à Dieu, j'accepte le moyen que tu as utilisé, c'est que ton Fils est mort à ma place et je fais de lui mon Seigneur, je lui donne ma vie. Il nous accorde son pardon. Il nous sauve. Il fait de nous ses enfants, son peuple chéri. Il nous inclut dans son Église précieuse. J'espère que c'est votre cas. Sinon, rien ne vous empêche de le faire maintenant. Faites-le aujourd'hui. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Et Dieu va vous pardonner. Votre vie sera transformée. Vous serez ajouté à son Église. Vous pourrez prendre part, prendre soin du troupeau de Dieu. Et Paul dit qu'il a tout fait ce que le Seigneur Jésus lui avait demandé de faire. Donc, en 3 ans, on voit qu'il a travaillé fort. Il a enseigné toute la révélation de Dieu et il dit « Je suis maintenant pur du sang de vous tous. » En d'autres mots, j'ai fait ma part. Maintenant, si parmi vous certains abandonnent le Seigneur, s'endurcissent, j'en suis pas responsable. Ma part, c'est d'annoncer l'Évangile, vous avertir, mais je ne peux pas transformer votre cœur. Ça, c'est entre vous et Dieu. C'est votre décision et c'est l'action du Saint-Esprit. C'est la même chose pour nous, dans le fond. Notre part, c'est d'enseigner l'Évangile, enseigner la parole de Dieu, mais on n'est pas responsable lorsque l'un décide d'abandonner le Seigneur. On voit le même principe dans un foyer chrétien. Les parents qui enseignent leurs enfants, qui leur transmettent des principes bibliques, qui leur annoncent l'importance de donner leur vie au Seigneur Jésus, mais les parents ne peuvent pas décider à la place des enfants. Et lorsque l'enfant atteint un âge où il décide par lui-même, s'il abandonne le Seigneur, mais si les parents ont fait leur travail, ils sont purs de son sang. Ça ne veut pas dire que ça fait pas mal au cœur. Ça reste une douleur, mais aucun reproche ne sera fait au serviteur de Dieu qui a prêché la parole, qui a enseigné la doctrine biblique. Et Paul est confiant, malgré qu'il va souvent dire dans ses lettres qu'il y a un souci pour les croyants qu'il ne peut plus voir, là, parce qu'il est à distance, mais il est confiant que s'il continue, les anciens, à prêcher la parole de Dieu, la parole est pleinement suffisante pour continuer d'édifier les croyants et de les mener à terme pour les faire hériter de la vie éternelle, hériter d'une place dans le royaume des cieux. Donc, il dit au verset 32, « La parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. » C'est vraiment la parole de Dieu là, qui fait en sorte que le Saint-Esprit va utiliser la parole de Dieu pour continuer d'édifier les croyants, les faire grandir dans la foi, dans l'obéissance, et qui va ajouter à l'Église, qui va sauver les âmes et qui va garder les croyants persévérants jusqu'à la fin pour leur faire hériter la vie éternelle. Bien, c'est ce qu'on s'efforce de faire à Rosemont, du mieux qu'on peut. C'est sûr que les anciens sont toujours ouverts au conseil de l'Assemblée pour voir si on peut mieux faire les choses ou pas, mais on essaie, c'est un héritage qui date depuis longtemps, même depuis la fondation de l'Église, ça fait au moins 65 ans que l'Église existe à Rosemont, là, du temps de William-Henri Frey, puis sous la conduite de René Frey, et c'est une valeur chère qui est à Rosemont qu'il faut enseigner la parole, mais toute la parole de Dieu. Et on s'efforce de prêcher tous les livres de la Bible, toutes les doctrines, tous les thèmes que la Bible aborde, et ça dans différents contextes, donc pendant le culte, comme nous le faisons maintenant, mais aussi dans les petits groupes, les groupes de quartier, la jeunesse, collège et carrière, même les sentinelles vont lire un passage de la Bible, le groupe des hommes, même ils vont étudier un passage de la Bible, les aînés ont l'habitude aussi d'étudier la Bible, et plusieurs reproduisent ça dans leur maison, souvent dans des rencontres un à un pour la formation de disciples, on étudie la Bible, tout tourne autour de la parole de Dieu. Et on s'efforce de ne pas délaisser cela. En fait, c'est la Bible elle-même qui est notre guide pour savoir ce qu'on doit enseigner. Les sujets sont là, ils nous sont proposés. Donc, lorsqu'on prêche systématiquement, par exposition, le texte de la Bible, on va aborder tous les sujets dont Dieu veut qu'on aborde. Et on vit l'expérience à l'école biblique. Donc, en un an, les étudiants voient un survol de toute la Bible, tout l'Ancien Testament, tout le Nouveau Testament, un survol de toutes les doctrines biblique fondamentale et aussi un survol de comment appliquer tout ça dans sa vie personnelle, la vie en Église, son service dans l'évangélisation. Donc, on voit que c'est possible finalement de faire découvrir pas mal tout en un an. Mais les pasteurs ne sont pas que des conférenciers. Le rôle du pasteur, ce n'est pas simplement d'enseigner. Il y a un contact direct qui doit être fait avec l'Assemblée. Donc, la responsabilité du pasteur n'est pas que de livrer un message, mais vraiment d'avoir un lien avec l'Assemblée, un lien intime. Et on pourrait résumer cela au devoir de garder l'Église. Donc, premièrement, être dévoué. Deuxièmement, attaché à la parole de Dieu, l'enseigner. Et troisièmement, vraiment veiller. C'est comme les soins pastoraux. Veiller sur l'Église comme le troupeau de Dieu. Mais par où on commence? Parce que la tâche est grande, là. Et au verset 28, c'est là que Paul il dit aux évêques, « Moi, je vous ai tout dissimulé, je suis pur du sang de vous tous, maintenant, voici votre tâche. » Et c'est étonnant comment il commence, Paul, verset 28. « Prenez donc garde à vous-même. » Wow! C'est comme si la priorité pour les anciens, là, c'est d'abord de veiller sur leur propre âme, leur propre santé spirituelle. Prenez garde à vous-même, les anciens, en premier, pour que vous puissiez ensuite prendre soin de l'Église. Vous devez d'abord veiller sur votre propre santé spirituelle. J'ai été frappé là, par une étude qui a été faite récemment sur, pour essayer de comprendre la cause ou les causes des pasteurs ou des missionnaires à temps plein qui finalement doivent abandonner le ministère parce qu'ils sont tombés dans le péché, soit dans l'adultère ou dans toutes sortes de péchés ou dans la fraude, qui fait en sorte que finalement, il y a un scandale qui éclate et ils doivent tout délaisser. Parfois, c'est l'alcoolisme ou peu importe le péché, un vice qui prend de la place et finalement, ils doivent abandonner le ministère. Et il y a plusieurs causes. C'est sûr que les pasteurs, les missionnaires qui sont tombés ne vivaient pas nécessairement toutes les mêmes choses. Mais il y a deux éléments qui reviennent constamment. Le premier, c'est qu'aucun d'entre eux ne se doutait que ça pourrait leur arriver à eux-mêmes. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils ont été surpris de cela, de voir qu'ils finalement, ils avaient les deux pieds dans le péché. Ils étaient tombés. Puis ils ne pensaient jamais que ça pouvait leur arriver. Donc, ils vont tous témoigner de cela. Et la deuxième chose, ils témoignent tous qu'ils avaient négligé leur culte personnel. Je dis, comment ça se fait qu'un pasteur qui enseigne la Bible, un missionnaire que sa tâche, c'est de proclamer l'Évangile, est détaché de la Bible à ce point-là? Mais c'est un piège que de croire que de préparer des enseignements ou même d'évangéliser va nous garder en bonne santé spirituelle. Chaque individu a besoin d'un temps personnel avec Dieu, de méditer la parole, pas seulement en pensant aux autres, mais en pensant à soi-même, de voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire sur nous-mêmes, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que je corrige dans ma vie, comment je dois me confier en Dieu plutôt que me confier en mes propres moyens. Si on arrête de prier en tant qu'ouvrier, on va arrêter de dépendre de Dieu. Si on arrête de lire la parole, on va arrêter de voir ce que le Saint-Esprit veut que l'on fasse. On va arrêter d'appliquer la volonté de Dieu dans nos propres vies. Finalement, on va tomber. Un frère m'a partagé qu'il a été comme choqué de voir dans l'église, je ne vous dirai pas laquelle, mais une autre église de notre association, qu'il y avait un couple qui était affairiste. Leur service principal, c'est de faire des soins de counseling auprès des autres couples qui vivent des difficultés. Donc, ils avaient développé une expertise et ils faisaient ça en couple, l'homme et la femme, d'aller visiter les couples qui avaient des difficultés, qui étaient en crise, ou pour les conseiller bibliquement. Et tout à coup, l'Église apprend qu'ils ont divorcé. Puis ils sont partis chacun dans une direction, puis il y avait même une question d'adultère là-dedans. Tu dis, comment qu'un couple peut être en train d'offrir des soins, de relations d'aide à d'autres couples, et vivre eux-mêmes dans le péché, puis être complètement délaisser le Seigneur et faire le contraire de sa volonté? Bien, c'est évident, en tout cas, on n'est pas allé vérifier, mais c'est évident qu'ils avaient négligé cette méditation biblique-là, ce culte personnel avec leur Dieu. Un pasteur qui laisse subtilement le péché entrer dans sa vie va devoir éventuellement être hypocrite. Mais comme je le disais au début de notre étude, ça s'applique à chacun de nous. Chacun dans l'Église, si on laisse le péché entrer dans notre vie, tout à coup, pour continuer à servir dans l'Église, dans un ministère, on va être obligé d'adopter une attitude hypocrite. On ne peut pas quand même afficher tous nos péchés. Même à un moment donné, si on continue de s'enfoncer, on sait qu'on est un peu disqualifié, mais on dit « je vais me réchapper » ou « je compte sur la grâce de Dieu ». Puis on fait semblant d'être un bon chrétien, mais la situation empire parce que parfois la honte qui est là dans notre cœur, on veut l'étouffer. Le sentiment de culpabilité, là, on veut l'étouffer puis on va se lancer dans d'autres activités qui sont peut-être malsaines et mauvaises, comme des échappatoires pour fuir cette honte-là. Puis c'est un piège parce qu'on s'enfonce encore plus dans le péché. Là, c'est un cercle vicieux qui ne fait qu'empirer et empirer. jusqu'à ce que finalement tout éclate. Malheureusement, on a appris, j'ai appris cette semaine, moi, que ça a été le cas pour Ravi Zacharia. C'est d'une grande tristesse. Lui qui a écrit beaucoup de livres, un défenseur de la foi chrétienne, un apologète, qui est tombé dans des péchés affreux. Puis ça détruit finalement tout son témoignage, ça détruit le témoignage chrétien. Il argumentait avec des gens de beaucoup de religions pour montrer que la foi chrétienne, c'est la seule vérité. Puis là, on découvre qu'il fait des péchés condamnables aux criminels. C'est vraiment honteux. Donc, notre vie personnelle n'est pas détachée là, de notre service pour Dieu. C'est directement lié. C'est pour ça que Paul dit aux anciens de veiller d'abord sur eux. Ensuite, ils peuvent servir l'Assemblée. Même, on peut résumer, là, qu'est-ce que ça veut dire que de garder le troupeau? Là? C'est un peu comme la devise des policiers. Protéger et servir. Vraiment, les pasteurs sont là pour protéger et servir le troupeau de Dieu. Pourquoi protéger? Parce qu'il peut y avoir des attaques. Et ici, Paul dit que ces attaques-là peuvent venir de deux fronts. Je ne sais pas si Paul avait reçu une révélation du Saint-Esprit. Il dit, je sais que quand je vais partir, il y a des loups qui vont s'introduire dans la bergerie pour dévorer des brebis. Là. Même subtilement, parfois, les loups, ils s'infiltrent, là, ils se cachent, là. Ils courent à travers les brebis pour aller saisir les plus faibles ou celles qui sont blessées pour partir avec. Des loups vont rentrer dans l'assemblée. Est-ce qu'il avait reçu une révélation du Saint-Esprit pour dire ça, ou bien il parlait simplement d'une manière générale, parce que Jésus nous a avertis aussi qu'on vivrait des persécutions. On ne sait pas, mais l'histoire a montré que c'est arrivé très souvent. Que des gens veulent s'infiltrer, soit pour répandre un faux enseignement, simplement motivé par la haine contre l'Évangile, alimenté par Satan. Parfois aussi, c'est parce qu'ils voient une occasion de manipuler l'Assemblée, qui sont en général innocents, puis ils vont croire ce qu'on leur dit, puis ils peuvent trouver une manière de les manipuler pour s'enrichir ou se faire une gloire personnelle. Certains en voient comme une opportunité de carrière, puis ils veulent détourner une partie de l'Assemblée pour les suivre, eux. Donc, pour entraîner les disciples après eux, que Paul dit. C'est vraiment contrastant. Hein? Un vrai serviteur là, de l'Église est censé diriger les disciples à suivre Jésus, pas eux. Et Paul dit qu'il sait que ça va arriver à Éphèse. Puis je peux dire que ça fait seulement 7 ans là, que je suis pasteur à temps plein ici à Rosemont, puis c'est arrivé quand même souvent. J'essaie de me souvenir là, des gens qui sont venus, connaissant les Écritures, qui s'infiltrent subtilement dans les groupes de quartier ou les groupes de prière, tout à coup qui veulent s'adresser au groupe, et tout à coup j'apprends qu'ils veulent s'adresser à toute l'Assemblée. Ils ont un message à plus haute importance. Puis quand on creuse un peu là, ce qu'ils ont à dire, là, c'est des faux enseignements, quelque chose de complètement nouveau, de farfelu. Puis tu vois que leur intention n'est pas pure, est mauvaise. Donc c'est arrivé souvent que les anciens ont dû refuser le droit de parole à ceux qui le demandaient, qui venaient de l'extérieur. Mais Paul dit aussi, et ça peut nous surprendre, qu'on peut recevoir une attaque de l'intérieur. Il dit, au milieu de vous, des hommes même se lèveront et prononceront des paroles perverses pour entraîner des disciples après eux, pour provoquer des divisions dans nos propres rangs. Des gens qui sont là peut-être depuis des années, qui ont grandi à l'Église, qui atteignent l'âge adulte et tout à coup se rebellent, soulèvent l'Assemblée, veulent sauver une partie de l'Assemblée et même parfois réussissent à monter l'Assemblée contre les anciens, même parfois réussissent à diviser le Conseil d'anciens, briser l'union, l'unité dans l'Église et créer des divisions. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et ça part souvent sur des fausses doctrines et on entend tout à coup qu'on pense qu'on a été trompé dans l'enseignement à l'Église puis on veut faire une révolution, là, comme un réveil, puis ça fait une crise, là. Mais Paul dit, faites attention, veillez non seulement sur les attaques de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Pour cela, il faut avertir constamment. C'est ce que Paul a fait, il mentionne plusieurs fois, hein, que jour et nuit, il avertissait, donc il était toujours en mode méfiance. Comme un bon berger qui garde un troupeau sur une colline, puis qui sait qu'il y a des loups, qu'il y a des ours, qu'il y a des lions qui tournent autour, même lorsqu'il dort, il est de garde en fait finalement, il dort juste d'une oreille là. Juste d'un œil, puis s'il entend un bruit, il va se réveiller. Vraiment, sa préoccupation, là, c'est la sécurité du troupeau. Et c'est comme ça que Paul était. Et pour s'assurer de cette sécurité-là, il avertissait constamment. Faites attention. Faites attention si un Juif vient vous voir, qu'il vous dit qu'il faut vous faire circoncire, pratiquer le sabbat, sinon vous ne pouvez pas être sauvé. Attention à tous ceux qui vous interdisent de manger tel ou tel aliment. Attention à ceux qui vous disent que vous allez être plus proche de Dieu si vous allez fréquenter des prostituées. Donc vraiment, les avertir sur tous les dangers qu'ils pouvaient rencontrer. Vraiment, les avertissements continuellement. Ce n'est pas tout de connaître la Bible. Si vous êtes chrétien depuis longtemps et que vous avez déjà lu la Bible entièrement, vous la connaissez. Mais on a besoin de se faire rappeler souvent les dangers. Se faire rappeler, se faire avertir, se faire répéter continuellement. Même, je pense qu'on en a besoin jusqu'à notre mort. Sinon, on risque de tomber, de mettre le pied dedans et de tomber jusqu'au cou. On a besoin d'être rappelé du danger. Et j'en profite ce matin pour vous rappeler d'un danger qui est encore plus fort présentement puisqu'on est en temps de pandémie, on est en confinement, puis qu'on a les yeux sur Internet souvent, le danger des faux enseignements. Ce n'est pas tout enseignant qui se dit chrétien, qui se dit même évangélique, qui va vraiment prêcher la parole de Dieu fidèlement. Il y a foule de cochonneries sur Internet, là, des faux enseignements qui servent à vous détourner. Soyez vraiment très méfiants. Il faut, entre autres, se méfier énormément de tout ce qui est supposément révolutionnaire, nouveau. Les gens qui vont vous dire, on a mal interprété les Écritures depuis des siècles. Voici ce que le Saint-Esprit m'a convaincu. Voici la vérité. Wow, il faut se méfier de ça. Normalement, l'interprétation conservatrice d'un passage est normalement la bonne. Ça se peut qu'on se soit trompé sur la transcription d'un mot. On peut raffiner notre compréhension des Écritures, là, mais ce qu'on sait à propos des doctrines fondamentales, là, ça demeure vrai pour toujours. Là. Et les chrétiens ont étudié la Bible là, et ce qu'on a monté, même dans notre confession de foi, là, c'est pas la Bible, mais c'est vraiment notre compréhension de ce que c'est que l'Évangile. Là. Et quelqu'un qui apporte quelque chose de différent, là, on doit vraiment s'en méfier. Et il faut se méfier aussi de tous ceux qui ont des produits à vendre. Ça, là, c'est vraiment louche. Ils apportent une belle solution, là, puis ils invitent les gens à donner pour leur ministère. Ils ont des DVD à vendre, des T-shirts ou je sais pas quoi, ou des produits pour faire une étude personnelle, mais qui coûtent cher. Il faut vraiment s'en méfier. C'est une business, là, c'est une entreprise personnelle qu'ils ont. Il faut se méfier aussi de tous ceux qui ne sont pas redevables à une église. Ceux qui prêchent sur Internet, qui ont leur propre chaîne YouTube, mais qui ne rendent pas de compte à une église locale, qui ne sont pas soumis à un conseil d'anciens, qui ne sont pas redevables à leur père, on doit vraiment s'en méfier. Ce n'est pas la manière de procéder du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut qu'on soit en église, qu'on soit redevables les uns des autres, qu'on s'avertisse, qu'on se surveille ensemble. Pas tout seul, un Lone Ranger qui fait sa petite affaire. Donc, en tout cas, il faut se méfier de beaucoup de choses. Il faut vraiment s'avertir les uns des autres aussi. Si vous savez qu'un frère est en train d'écouter telle ou telle chose qui n'est pas recommandable, avertissez-le, là, c'est pour son bien. Donc, les pasteurs doivent protéger l'Assemblée, ils doivent aussi servir, protéger et servir. Ils doivent observer quels sont les besoins à combler. C'est le dernier point sur lequel Paul insiste, c'est qu'il, dans la mesure du possible, ils doivent faire leur part pour contribuer au bien-être de l'Assemblée. Et si ce n'est pas par leur propre main, ben ils doivent finalement voir à l'organisation de l'Église pour s'assurer que personne ne soit dans le besoin, dans ses besoins fondamentaux. Là. Et ça touche vraiment les besoins matériaux, même au niveau financier. C'est pour ça qu'à l'Église, on a un fonds de secours. Paul dit qu'il a travaillé de ses mains, non seulement pour pouvoir ses propres besoins, mais pour pouvoir aux besoins de ses compagnons. C'est ce qu'il invite à faire, même dans sa lettre aux Éphésiens, justement à eux, aux Éphésiens. Il leur dit que ceux qui avaient l'habitude de dérober, là, de voler, de profiter des gens, qu'ils arrêtent de faire ça, plutôt qu'ils travaillent. Qu'ils soient disciplinés, qu'ils travaillent non seulement pour gagner leur vie, mais pour aider leurs frères qui sont dans le besoin. C'est vraiment le devoir de tous les croyants, et les pasteurs sont là pour veiller à l'entraide des croyants. Ça peut aussi, bien sûr, couvrir tous les besoins au niveau spirituel, le besoin d'encouragement, le besoin d'avoir une oreille pour être entendu et écouté, le besoin de conseils, le besoin de corriger aussi, là, si ça va dans une mauvaise direction, le besoin d'aider à organiser, donc à diriger. Chacun selon ses forces. C'est pour ça que c'est bon d'avoir un comité, un conseil d'anciens, un conseil de responsables, parce que le Saint-Esprit va donner des capacités différentes à chacun. Les anciens se complètent. Donc, en résumé, ces trois devoirs-là, d'être dévoué, une attitude vraiment de voir le ministère comme une vocation, d'enseigner la parole, d'avoir un attachement à la parole de Dieu et de protéger l'Assemblée, de la garder. Si c'est fait correctement, ça va être motivé par l'amour. Ça n'a pas le choix, là. Quelqu'un qui consacre sa vie à cela, c'est parce qu'il aime l'Église, que Dieu aime. Et l'amour ici est évident chez Paul. On voit son attachement avec les Éphésiens. Lorsqu'il dit qu'il a pleuré, là, c'est parce que vraiment il avait cela à cœur. Il avait un souci pour eux. Ils l'ont su et l'attachement était très fort. Il a suffi de 3 ans pour que les liens soient tellement forts que là, il se jette au cou de Paul pour l'embrasser. Ils ne veulent pas qu'il meure. Ils espèrent pouvoir avoir son visage. Là, mais là, il l'accompagne jusqu'au bateau. On s'imagine, comme dans les films, là, que Paul s'en va puis il le salue. Mais vraiment, ils sont touchés. Ça montre l'amour de Paul pour l'Église, le lien d'affection. Et ça, ça part d'un amour pour Jésus. Un amour pour Jésus parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. On lit dans Jean 21, 15, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Mais il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Ou paie mes agneaux, fais paître mes agneaux. Donc, c'est par amour pour Jésus que le pasteur va trouver la motivation de prendre soin de l'Église. Et c'est par amour pour les frères aussi, bien sûr. Dans Galates 5, et ça s'adresse à tous les frères, Galates 5, 13, il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez les serviteurs les uns des autres. » Donc, ce qui est mis en opposition, dans la lettre aux Galates, entre autres, là, c'est vivre par la chair ou vivre par l'esprit. Mais ici, on comprend qu'est-ce que c'est que de vivre par l'esprit. C'est d'être des serviteurs pour nos frères, vraiment d'exercer l'amour fraternel, que ça caractérise notre vie. Quand on est prêt à passer un mercredi soir à faire une étude biblique, à prier avec un groupe de l'Église, de différents âges, de différentes races, de différents intérêts, même au niveau de la vie quotidienne, mais qu'on est prêt à passer une soirée avec eux, par amour pour eux, wow, c'est vraiment une preuve d'amour. Lorsqu'on est prêt à s'assembler un dimanche matin, ça va être un défi là, quand la pandémie va être terminée, là, de se lever, mais la plupart des gens dans la population font la grâce matinée dimanche matin. C'est le brunch, mais les chrétiens se lèvent, vont à l'église pour adorer Dieu. Wow, c'est une preuve d'amour pour Dieu, mais c'est une preuve d'amour pour les frères et sœurs aussi. Mais Paul est le modèle à suivre dans ce dévouement-là, un modèle à suivre pour les pasteurs, et les pasteurs doivent être des modèles pour l'Assemblée. Bon, je termine par le passage dans 1 Pierre 5 qui résume bien cette même pensée-là. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Donc, appliquons ces mêmes principes-là, chacun de nous, dans nos vies, dans nos foyers, dans toutes nos vies personnelles, d'être dévoués, d'avoir un esprit de sacrifice, d'être attachés à la parole de Dieu, considérer que toute la vie chrétienne tourne autour de cela, et de servir, finalement, servir l'Assemblée pour son bien. Tout cela demande beaucoup de temps, de ressources, mais, comme Jésus l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen.